Laudetur Jesus Christus.
Les civils de Cisjordanie pris au piège après une vaste opération israélienne il y a 2 semaines, la militarisation du territoire occupé continue. Nous ferons le point sur le terrain. La rivalité sino-américaine n'est pas que commerciale mais aussi technologique. Le terrain de l'intelligence artificielle agite toutes les convoitises. Nous verrons comment les États-Unis s'allient avec la Corée du Sud pour contrer la Chine. Avant de partir au Sri Lanka où le nouveau président promet de s'attaquer à la corruption ravageant l'archipel, puis au Timor-Orient, la nation insulaire asiatique a inscrit la fraternité humaine dans sa constitution. Nous en parlons avec son président en ce 6e anniversaire de la déclaration signée par le pape et l'imam d'Al-Azhar.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Situation préoccupante en Cisjordanie. Le camp de réfugiés palestiniens de Jenin se dirige vers une catastrophe. L'alerte de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens sonnait ce mardi après la vaste opération de l'armée israélienne il y a 2 semaines. 13 écoles gérées par l'organisation onusienne dans le camp et les environs restent fermées, privant notamment quelques 5000 enfants de classe dans cette zone, le miroir d'une dégradation régionale dans le territoire occupé. À Jérusalem, Valérie Ferrand.
Suite à l'attaque, les forces d'occupation israéliennes ont bombardé et déployé des troupes supplémentaires dans le village tout proche de Tamoun, ainsi que dans le camp de réfugiés d'Al-Fara. Les habitants y sont assiégés, l'armée israélienne empêchant les agriculteurs de se rendre dans leurs champs et les équipes médicales ainsi que les journalistes d'y entrer, selon une méthode utilisée également à Jenin ou encore à Toulkarem. Elle a entrepris une vaste opération de destruction des réseaux d'eau et d'électricité, des rues et de maisons. Les forces d'occupation israéliennes ont également expulsé les familles de 15 immeubles, leur ordonnant de ne pas revenir avant 3 semaines. Cette politique israélienne d'expulsion des Palestiniens est également mise en œuvre dans le camp d'Al-Fara, ainsi qu'à Jenin, où la situation dans le camp de réfugiés est qualifiée de catastrophique par l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, après 2 semaines de bombardements et le dynamitage de plus de 120 maisons dimanche dernier. Jérusalem, Valérie Ferrand, Radio Vatican.
Parallèlement, les négociations pour la deuxième phase de l'accord avec Israël ont commencé, affirme ce mardi le mouvement islamiste du Hamas, pendant que le premier ministre de l'État hébreu se trouve toujours aux États-Unis. Il doit rencontrer ce soir Donald Trump à la Maison-Blanche pour évoquer aussi l'Iran et l'Arabie saoudite. Pendant ce temps, le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio poursuit sa tournée américaine au Costa Rica. Déplacement pour désamorcer l'influence chinoise croissante en Amérique centrale. Le diplomate premier hispanique à la tête du département d'État s'est rendu au Panama, au Salvador et devrait poursuivre avec le Guatemala ce soir, seul pays d'Amérique centrale qui reconnaît Taïwan. Et puis frontalier du Guatemala, le Mexique commence de son côté à déployer les 10 000 soldats à la frontière avec les États-Unis, annonce sa présidente aujourd'hui, comme convenu avec l'accord conclu hier avec son homologue américain, moyennant la suspension de la menace d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits mexicains, comme il en a été de même avec le voisin et canadien. Et comment Donald Trump agira-t-il avec son homologue à la tête de la deuxième économie mondiale, qu'il menace aussi de 10% supplémentaires? La question reste en suspens. Présidents américains et chinois doivent se parler dans la journée. Il n'y a pas que la guerre commerciale sino-américaine, mais aussi une plus féroce qui se joue sur le terrain de l'intelligence artificielle. Alors pour réagir à l'onde de choc provoquée la semaine dernière par le logiciel DeepSeek, la Corée du Sud affine ses armes ainsi de son géant de la tech Kakao, qui vient de conclure un partenariat avec l'entreprise américaine OpenAI. Derrière le logiciel ChatGPT, l'entreprise américaine cherche aussi de nouveaux alliés après l'apparition du rival chinois. À Séoul, toutes les explications de Celio Fioretti.
En tournée en Asie, Sam Altman, PDG d'OpenAI, enchaîne les partenariats. Après le géant japonais des télécoms SoftBank pour un investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis, OpenAI fait affaire cette fois avec les Sud-Coréens de Kakao. Le groupe Kakao est l'un des piliers de la technologie en Corée du Sud, regroupant aussi bien une banque en ligne que des applications de messagerie ou de taxi. Le partenariat entre OpenAI et Kakao devrait permettre à l'entreprise sud-coréenne d'intégrer l'intelligence artificielle ChatGPT dans ses services. Les applications du quotidien ne sont pas uniquement la cible de la visite de Sam Altman. Ce dernier s'est également entretenu avec le PDG de SK Hynix, géant des semi-conducteurs, ses puces électroniques qui permettent notamment à l'intelligence artificielle de fonctionner. Pays de haute technologie, la Corée du Sud pourrait être un allié important pour OpenAI afin d'affiner sa technologie et de la proposer sous différentes applications dans le monde entier. Salut Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
Et dans une semaine, diverses personnalités évoqueront l'IA lors du sommet de Paris co-organisé par la France et l'Inde. Le vice-président américain J.D. Vance vient d'annoncer sa participation aux côtés de son homologue chinois. Le Saint-Siège suit la question avec attention, livrait ses grandes orientations sur cette révolution technologique et civilisationnelle majeure dans le document Antiqua et Nova paru il y a une semaine. Le cessez-le-feu humanitaire décrété par le M23 est entré en vigueur ce mardi en RDC. Après la chute de Goma et le déplacement des combats dans le sud Kivu, les armes se taisent. L'ONU appelle à rouvrir l'aéroport de la principale ville de l'est du pays. Son Conseil des droits de l'homme se réunira vendredi pour examiner cette crise, la veille d'une rencontre cruciale en Tanzanie entre présidents congolais et rwandais. Partons à présent en Asie du Sud-Est. Le Sri Lanka fêtait aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance proclamée en 1948. L'occasion pour le président d'Issanayake de montrer qu'il entend réduire les dépenses inutiles pour se concentrer sur les besoins de la population, 3 ans après le début de la crise financière. La correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
Le Sri Lanka a organisé un défilé militaire bien loin du faste habituel. Seulement 1800 soldats étaient déployés à Colombo, presque 2 fois moins que l'an dernier. 3 appareils ont survolé la capitale alors qu'il y en avait 6 fois plus en 2024. Le nouveau président Hanura Kumara Dissanayake, élu en septembre dernier, avait promis durant sa campagne de sortir le pays de la crise économique et d'éradiquer la corruption. L'île s'était déclarée en cessation de paiement en 2022 et avait fait défaut sur une partie de sa dette étrangère. Cette crise avait plongé le pays dans un marasme économique inédit, provoquant des pénuries alimentaires et de médicaments. En organisant un défilé plus sobre cette année, le nouveau pouvoir a voulu montrer l'exemple en faisant des économies. Le président d'Issanayake a répété depuis son élection qu'il voulait d'abord améliorer les conditions de vie de la population et réduire le train de vie de l'État. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Et dans l'actualité vaticane, ce mardi, publication de l'intention de prière du pape pour le mois de février. Le souverain pontife l'a dédié aux personnes consacrées à les vocations sacerdotales et religieuses. Et puis au lendemain du sommet au Vatican sur les droits des enfants, parution également du message du pape pour la future journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Elle aura lieu le 27 juillet avec pour thème « Bienheureux qui n'a pas perdu son espérance ». Ce 4 février marque aussi les 5 ans de la déclaration sur la fraternité, les 6 ans, pardon, de la déclaration sur la fraternité humaine signée par le pape et le grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi, un repère phare dans le long et patient travail du dialogue interreligieux. Le président du Timor oriental, petite nation catholique du sud-est asiatique à laquelle le pape a rendu visite en septembre, l'a bien compris. Il était aujourd'hui aux Émirats arabes unis pour la remise du prix sur la fraternité humaine. Il nous explique comment il a concrètement appliqué ce principe à son pays.
Compte tenu notamment des signatures du pape et du grand imam d'Al-Azhar, j'ai pensé que ce document serait extrêmement précieux pour le Timor oriental dans la poursuite de la voie que nous avons choisie. Nous sommes un petit pays nouveau et nous avons surmonté la violence dans le passé. Nous recherchons la réconciliation et non la vengeance. Nous voulons guérir les blessures de l'âme et du corps et créer une société pacifique, inclusive et tolérante. C'est pourquoi, avant même de prêter serment pour mon second mandat de président, dès que j'ai été élu, je me suis rendu au Parlement. J'ai dit au président de la Chambre qu'il était important que notre Parlement adopte une résolution actant la déclaration d'Abu Dhabi comme document national. Il a accepté. J'ai rendu visite à différents chefs de parti et ils ont tous été d'accord. Ainsi, avant même que je prête serment, le document avait été adopté à l'unanimité. Mais il ne doit pas rester un simple document. Il doit être traduit dans nos langues et adapté à nos programmes scolaires. C'est ce qui est en train de se produire. Nous allons l'adapter pour les enfants et les différentes classes d'âge. Lorsqu'ils auront atteint l'âge de l'université, ils seront capables de lire et de comprendre le document dans son intégralité.
Ramos Horta, le président du Timor oriental, interrogé à Abu Dhabi par Joseph Tulloch de la rédaction anglophone. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de l'avoir suivi. L'actualité du pape et du monde revient demain matin à 8h30. Très belle soirée.